Vous écoutez France Inter, il est 18h. Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir Charline et les amis. À demain, pour nous c'est parti, le 18-20 de France Inter est ouvert. Installez-vous et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de cette journée du jeudi 11 novembre avec le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel ce soir commence par un adieu.
L'adieu de la France à Hubert Germain, le dernier des compagnons de la Libération, mort il y a un mois et dont le cercueil repose désormais au Mont-Valérien, lieu de mémoire de la France combattante. Retour sur les cérémonies du 11 novembre en début de journal. Autre titre ce soir, la mort de Frédéric de Klerk, le dernier des présidents blancs d'Afrique du Sud, celui qui a mis fin à l'apartheid, mais dont certains propos récents avaient encore choqué. Ce soir, dans une déclaration posthume, il s'excuse dans des termes tout à fait nouveaux, on l'entendra. À suivre aussi un accord entre une dizaine de pays à la COP26 pour mettre fin à l'extraction de pétrole et de gaz. Le metteur en scène Michel Didim, soupçonné de violence sexuelle, qui quitte la direction du festival de la mousson d'été. Et puis les contrôles des passes sanitaires qui se multiplient après l'allocution du président.
À 18h15, un jour dans le monde, et nous allons poursuivre avec une discussion, le sujet que vous entamez. Sébastien, les excuses posthumes de Frédéric de Klerk, ce qu'il a été pour l'Afrique du Sud et cette ambiguïté-là, en fait, justement, l'homme de la transition, la transformation du pays qui jusque-là n'avait exprimé aucun regret ni excuse. Et puis à 19h20, c'est le téléphone sonne. Sébastien, quelle est votre définition du bonheur terrestre ? Merci Sébastien.
Si vous restez avec Fabienne, nous, vous aurez répondu.
Si vous restez ce soir, nous allons tous nous y essayer avec la philosophe Marianne Chaillant qui signe Où donc est le bonheur ? Est-ce qu'on a le droit de s'en préoccuper après les 18 mois qu'on vient de traverser ? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher au risque de s'en rendre malheureux ? Il est où votre bonheur à vous ? Appelez-nous au 01 45 24 7000.
France Inter.
Son cercueil a rejoint la crypte du Mont-Valérien.
Hubert Germain, le dernier des 1038 compagnons de la Libération, mort il y a un mois à l'âge de 101 ans. Hubert Germain, qui repose désormais dans ce haut lieu de la mémoire résistante, comme l'avait souhaité le général de Gaulle. Son cercueil a d'abord remonté les Champs-Élysées ce matin sur un char de l'armée française, puis déposé sur la tombe du soldat inconnu pour célébrer l'armistice du 11 novembre 1918. Discours d'Emmanuel Macron sous l'Arc de Triomphe. Pour célébrer les compagnons de la libération, ces chevaliers, dit-il, de la liberté, les visages intemporels de la France. Et puis, dans un second temps, le cortège a poursuivi son chemin jusqu'au Mont Valérien. Vous avez suivi cette cérémonie, Simon Le Baron, bonsoir.
Bonsoir.
Cérémonie particulièrement émouvante.
Et comme ce matin, sur les Champs-Élysées, le cercueil recouvert du drapeau français est amené par ce char du nom de Bir Hakeim, bataille de 42 au cours de laquelle s'est illustré Hubert Germain. Les hommes de la garde républicaine portent la dépouille sous le soleil et sous l'immense croix de Lorraine du mémorial de la France combattante. Emmanuel Macron ferme les yeux quelques secondes quand résonne le chant des partisans. Visiblement ému, le président suit le cercueil. Dans la crypte, Hubert Germain rejoint 16 autres combattants, membres des forces françaises libres, tirailleurs sénégalais, tunisiens, tchadiens, résistants de l'intérieur. Le chef de l'État dépose sur le cercueil une croix de Lorraine taillée dans le bois de la charpente de Notre-Dame. C'était le souhait d'Hubert Germain. Le dernier compagnon de la libération repose au centre de la crypte, caveau numéro 9, exactement comme le voulait de Gaulle. À l'heure où tous les candidats se disputent l'héritage du général, le président, lui, n'a pas eu besoin de trop en faire, juste à se placer dans les pas de son prédécesseur au cours d'une journée où il aura suivi du début à la fin le cérémonial du 11 novembre 1945.
Simon Le Baron du service politique de France Inter, merci. Et puis autre cérémonie aujourd'hui dans le sud de la France où la ville de Millau a tenu à rendre hommage aux fusillés pour l'exemple, une commémoration rare. La ville a déposé une gerbe sur le monument aux morts dédié à 6 hommes fusillés pendant la guerre de 14-18 exécutés pour des motifs souvent dérisoires, comme le raconte Robert Siméon, il est porte-parole de la Ligue des droits de l'homme de Millau.
Je pourrais vous donner l'exemple du grand-père de quelqu'un qui est à Millau actuellement. Il était parti envoyé par sa section pour ravitaillement avec des gamelles. Au retour, il avait bu un petit coup de trop, il s'est égaré et il est arrivé au petit matin au lieu d'arriver dans la nuit. Ça a été interprété comme une désertion devant l'ennemi. Ceux qu'on veut réhabiliter, c'est ceux qui ont été fusillés pour l'exemple, simplement pour motiver l'ensemble des troupes à continuer le combat. La rancœur est encore présente chez les descendants aujourd'hui, hein. notre ami Millavoye, là, dont le grand-père a été fusillé pour l'exemple, il ressent encore une sorte de honte, une sorte de déclassement, quoi. Ils sont toujours considérés comme des délinquants, si je puis dire. Et ils sont morts pour la France et par la France. Ils ont été assassinés par des balles françaises, par leurs camarades des tranchées.
Robert Siméon, le porte-parole de la Ligue des droits de l'homme de Millau, avec Béatrice Duguay. Puis ajoutons qu'une proposition de loi de la France insoumise demande à réhabiliter les 560 fusillés pour l'exemple. Seuls 60 d'entre eux aujourd'hui l'ont été.
On a donc appris cet après-midi la disparition de Frédéric de Klerk, dernier président blanc d'Afrique du Sud.
Frédéric de Klerk, mort aujourd'hui à l'âge de 85 ans, libérateur de Nelson Mandela. C'est lui qui va mettre fin au régime de l'apartheid en Afrique du Sud en 1990 et qui recevra pour cela avec Mandela le prix Nobel de la paix. Frédéric de Klerk, personnage politique courageux, comme l'a admis lui-même le révérend Desmond Tutu, qui regrette malgré tout qu'il n'ait pas présenté d'excuses profondes pour les terribles méfaits de l'apartheid. Eh bien, ces excuses, il les prononce, Frédéric de Klerk, dans des termes tout à fait nouveaux ce soir, dans une vidéo posthume diffusée par sa fondation. On l'écoute.
Without qualification, apologize for the pain and the hurt and the indignity and the damage that apartheid has done to black, brown and Indians.
Voilà ce que dit Frédéric de Klerk. Laissez-moi aujourd'hui, dans ce dernier message, répéter, je présente sans réserve mes excuses pour la douleur, la souffrance, l'indignité et les dommages que l'apartheid a infligés aux Noirs, aux Métis et aux Indiens d'Afrique du Sud. Bonsoir Claude Guibal.
Bonsoir Sébastien.
On vient d'entendre les premiers mots de cette vidéo posthume, une vidéo de plus de 7 minutes dans laquelle Frédéric de Klerk revient sur son rôle pendant l'apartheid dans des termes que l'on n'avait jamais entendu prononcer jusqu'ici.
Oui, c'est le message d'un homme aux portes de la mort, hein, vous l'avez entendu, sa voix est fatiguée, un message de clarification très net. Je suis souvent accusé par les critiques d'avoir continué à justifier l'apartheid, dit Frédéric de Klerk. Il reconnaît avoir défendu cet apartheid quand il était député, puis au gouvernement. Mais par la suite, dit-il, je me suis souvent excusé pour la souffrance et l'indignité que l'apartheid a fait subir aux personnes de couleur en Afrique du Sud. Beaucoup m'ont cru, d'autres pas. Frédéric de Klerk assure avoir connu une forme de conversion, ce sont ses mots, au début des années 80, une conversion qui lui aurait fait comprendre, dit-il encore, que l'apartheid était une erreur moralement injustifiable. Dans ce message, il répète enfin son attachement à la Constitution, dont il dit l'esprit d'équilibre menacé par les idéologies, une façon de porter, jusqu'après sa mort, les revendications d'une partie des Blancs d'Afrique du Sud qui se sentent aujourd'hui mis sur le bord du chemin.
Claude Guibal de la rédaction internationale de Radio France, merci. Dans l'actualité étrangère encore, la tension qui ne retombe pas dans la crise migratoire entre la Pologne et la Biélorussie. Le régime de Loukachenko menace désormais l'Union européenne de représailles en cas de nouvelles sanctions de Bruxelles, et notamment de fermer les vannes d'un important gazoduc transitant sur son territoire. On y revient dans le journal de 19h. À Glasgow, la COP26 se termine officiellement demain, vendredi, mais le texte final pour être validé arrivera bien plus tard. En attendant, les déclarations de bonnes intentions se multiplient. Avec la nuit dernière, cette déclaration conjointe sur le renforcement de l'action climatique entre les États-Unis et la Chine, et puis cet après-midi l'engagement de 10 pays dont la France à réduire la production de pétrole et de gaz. Ils ne vont plus autoriser de nouveaux projets d'extraction sur leur territoire national. Bonsoir Sandy Dauphin.
Bonsoir.
Cette promesse n'engage pas les gros pays producteurs, mais c'est tout de même inédit dans une conférence sur le climat.
Oui, c'est vrai que les gros producteurs comme les États-Unis, le Canada ou la Russie n'ont pas signé, mais c'est assez nouveau d'entendre à un sommet climat des Nations Unies des ministres clamer qu'il faut en finir avec les énergies fossiles. Le ministre danois du climat et de l'énergie, Dan Jørgensen.
Si on est d'accord qu'il faut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, il n'y a pas de scénario possible sans une baisse du gaz et du pétrole. Pour rester sous 1,5 degré, nous devons laisser environ 60% des réserves connues sous terre.
Le Danemark, le Costa Rica, la Suède, la Californie ou encore la France s'engagent à ne plus délivrer de nouveaux permis d'exploration d'hydrocarbures sur leur territoire. Et même si le diable se cache dans les détails, c'est une victoire pour Romain Wallalen de l'ONG Oil Change International, qui milite pour une sortie des énergies fossiles.
C'est vraiment un tabou qui est en train d'être brisé sur la question des énergies fossiles dans les COP. C'est vraiment un endroit où on ne parle jamais de la cause principale de la crise climatique, qui est la production production et la consommation d'énergie fossile. Et là, pour la première fois, vous avez un groupe de pays qui disent il n'y a pas de futur pour la production de pétrole et de gaz dans un monde qui respecte l'accord de Paris.
Pour la France, il ne s'agit pas d'un nouvel engagement car la loi Hulot de 2017 interdit déjà l'exploration de nouveaux projets d'hydrocarbures sur son sol. Les ONG demandent au gouvernement d'aller plus loin et de geler des projets plus anciens en cours d'instruction.
Sandy Dauphin en direct de la COP26 à Glasgow avec Martin Troadec. C'est un nom de voiture qui ne vous dit sans doute encore rien. Rivian, fabricant américain de pick-up électrique, est devenu depuis hier la nouvelle star de la bourse américaine, un peu à l'image de Tesla qui avait beaucoup capitalisé au début en bourse sans vendre beaucoup de véhicules. Eh bien, Rivian vient d'être valorisé à 100 milliards de dollars pour son entrée au Nasdaq.
C'est un nouveau soubresaut dans le mouvement MeToo Théâtre en France.
Le metteur en scène Michel Didim se retire de la direction du festival La Mousson d'été. L'ancien directeur de théâtre de la Manufacture de Nancy fait l'objet d'une enquête préliminaire pour violences sexuelles. Cette affaire avait lancé il y a quelques semaines le mouvement MeToo Théâtre sur les réseaux sociaux. Michel Didim, de son côté, estime être victime d'un lynchage médiatique. Les précisions de Stéphane Capron.
La situation n'était plus tenable pour l'équipe de La Mousson d'été, festival créé par Michel Didim en 95. Le metteur en scène a donc préféré céder sa place à la metteuse en scène Véronique Bellegarde en tant que directrice artistique. Après les témoignages de plusieurs plaignantes dans la presse déclarant avoir subi du harcèlement et des violences sexuelles de la part de Michel Didim, les mouvements féministes ont créé le hashtag MeTooTheatre sur les réseaux sociaux afin de libérer la parole des victimes. Suite à ce mouvement, le Théâtre des Célestins de Lyon a décidé de reporter le prochain spectacle de Michel Didim. L'avocat de Michel Didim estime de son côté que les accusations sont en contradiction totale avec les résultats de l'enquête de police qui s'appuie sur les auditions de nombreux témoins et que le principe de la présomption d'innocence de son client a été ignoré. Dans le milieu du théâtre, certaines affaires ont été jugées et démontrées les violences faites aux femmes. C'était le cas à Besançon avec la condamnation d'un professeur de théâtre en 2020 à 4 ans de prison dont 2 fermes pour des faits d'agression, de harcèlement et de chantage sexuel sur 9 étudiantes.
Stéphane Capron.
Attention. Attention, Sébastien, si vous sortez au restaurant, si vous allez au cinéma ces prochains jours, les contrôles de passe sanitaire se multiplient.
C'est en tout cas la volonté affichée par le gouvernement et en particulier par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui demandait hier un renforcement des contrôles des passes et des gestes barrières aux forces de police. L'objectif, c'est de contrôler 8000 établissements par semaine. Illustration à Lille avec le reportage de Romane Porcon qui a pu suivre une patrouille des forces de l'ordre.
À chaque contrôle, c'est un peu la surprise pour les clients attablés. Les policiers vérifient les passes sanitaires sans oublier de demander la pièce d'identité qui correspond.
Il paraît qu'il y a des passes qui se prêtent. Contrairement aux débitants, nous on a la possibilité de vérifier que ça corresponde bien.
C'est la première fois que Romain et Émilie se font contrôler par la police depuis le début de l'épidémie.
À partir du moment où on est dans les règles, je ne vois pas pourquoi on aurait quelque chose à dire là-dessus. Quoi. Donc moi ça ne me dérange pas.
J'étais surprise de qu'on vérifie vraiment exactement si c'est bien le mien. Mais bon après c'est normal, je pense que comme il y en a qui fraudent, ben, il faut vérifier. Quoi.
Du côté des restaurateurs, le contrôle est plutôt bien accepté. C'est le troisième pour Franck Deshaides, patron d'un restaurant dans la rue de Gand.
Les cas sont en train de remonter. Il est tout à fait normal que des contrôles soient faits pour vérifier effectivement qu'on fasse bien notre travail aussi. Pour les clients, ça peut être un peu intimidant, mais bon, ils voient bien que ce qu'on leur demande, c'est pas juste pour les ennuyer, c'est aussi parce qu'effectivement, nous aussi, on est contrôlés.
Et c'est d'ailleurs le but, faire une petite piqûre de rappel aux clients comme aux patrons de ces établissements. Un rappel bien utile, selon le commissaire Charles Barillon.
Le pass sanitaire, c'est pas simplement pour manger au restaurant, ça peut aussi établir une infraction pénale avec une contravention de 4e classe, 135 euros.
Si une personne présente un faux pass sanitaire,
c'est une usurpation d'identité, c'est un délit. On peut être condamné à de la prison, c'est l'usurpation d'identité.
Lors de ce contrôle, une seule personne a été verbalisée, 135 euros d'amende pour avoir présenté un test antigénique qui n'était plus valable.
Reportage de Romane Porcon de France Bleu Nord. Et puis ajoutons cette bonne nouvelle pour les dernières boîtes de nuit et salles de concert soumises encore à une jauge de 75%. Ce n'était le cas que dans un cinquième des départements. Eh bien, cette jauge est levée officiellement et repasse de fait à 100% pour tout le monde.
Merci beaucoup Sébastien Eugénie. À tout de suite, bien sûr, dans Un jour dans le monde, vous nous parlerez notamment de train qui arrive à l'heure, à Tokyo, et sacrément à l'heure. Ce soir, nous sommes en Afrique du Sud pour tirer le portrait de Frédéric de Clercq qui vient de mourir, donc en laissant derrière lui cette vidéo très étonnante. Et puis 19h20, c'est le téléphone sonne. Est-ce que vous avez réfléchi, Sébastien, votre idée du bonheur terrestre?
Ne pas tousser pendant un journal.
général.
Bah écoutez, c'est assez simple. Ça devrait pouvoir aller. On le cherche, ce bonheur, en tout cas, ce soir, au téléphone sonne joyeusement, on l'espère, avec la philosophe Marianne Chaillan qui signe Où donc est le bonheur chez Équateur. Saine question, après ces 18 mois qui nous ont donné matière à réfléchir à notre bonheur, est-ce qu'il est vraiment utile d'aller le chercher, d'aller chercher quoi? Vous allez voir que, de manière très enlevée, Marianne Chaillan évoque tous les vieux philosophes de nos livres pour fracasser la représentation trop commune du bonheur. J'espère qu'on pourra le faire aussi avec vous, vos réflexions sur le sujet, vos questions, pourquoi pas, au 01 45 24 7000. Et si le bonheur était dans le soleil?
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes, toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Eh bien Jean-Pierre Hameau, bonsoir. Si le bonheur était dans le soleil, on serait finalement pas si mal lotis, non?
Oui, mais il y en aura quand même du soleil. Mais avant, il y aura du froid, surtout le matin. Le mercure va jouer avec la barre du 0 degré en fin de nuit en Île-de-France, dans le nord, le nord-est et le centre-est. Prévoyez par exemple moins 2 degrés à Fontainebleau et Reims, moins 1 à Nancy, Dijon et Orléans. Et n'attendez pas plus de 1 petit degré dans les rues de la capitale. Et puis à la suite de ce rayonnement nocturne, les brouillards seront au rendez-vous dans bon nombre de régions. Le soleil devrait quand même gagner la partie en cours de matinée. En revanche, vous resterez sous la grisaille toute la journée vers l'est parisien, la plaine d'Alsace et du Val-de-Saône au Lyonnais. Du coup, les températures maximales ne dépasseront pas la barre des 2 ou 3 degrés dans ces régions. À noter l'arrivée d'une perturbation nuageuse le matin en Bretagne, gagnant les pays de la Loire, la Haute-Normandie, l'Île-de-France et le Nord-Pas-de-Calais l'après-midi. Prévoyez toujours de la pluie en Corse et près des rivages méditerranéens. Puis côté température, les maximales afficheront 8 à 20 degrés du nord au sud. Dans le détail, n'attendez pas plus de 6 degrés à Dijon, 8 à Nancy, 11 à Lille, 12 à Paris, 15 à Brest, comptez quand même 18 à Marseille, 19 à Bordeaux et 20 à Toulon.
Jean-Pierre Hameau, merci beaucoup. À tout à l'heure, Jean-Pierre, juste après 19h.